OK, on va continuer notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. On en est rendu au livre de l'Ecclésiaste, comme on le fait à chaque première fois qu'on prêche sur un livre, on regarde différents éléments, comme son arrière-plan, le but principal du livre, un plan, le plan du livre et les thèmes majeurs et les personnages clés, quelques versets clés. Et des leçons pour le peuple de Dieu d'alors et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on va commencer par l'arrière-plan. Alors, on va commencer par l'auteur. La manière dont l'auteur se présente a quelque chose de troublant. Il est presque sur le point de dire qu'il est Salomon, mais il se retient. Le nom Salomon n'apparaît pas dans le livre, alors que dans les Proverbes et le Cantique des Cantiques, Salomon se présente clairement comme l'auteur. Pourquoi ce silence? Pourquoi aucune déclaration franche présentant Salomon comme l'auteur? Comme une grande partie du livre est autobiographique, peut-être eut-il honte d'y accoler son nom. La tradition et certains exégètes récents maintiennent que Salomon est bien l'auteur. Qui d'autre aurait pu se présenter comme fils de David, roi de Jérusalem? Nous avons devant les yeux un homme qui, à cause de sa position privilégiée, put goûter tout ce que la vie peut offrir. Mais il est roi maintenant et il porte la responsabilité de régner sur les autres. Il a aussi la responsabilité de les enseigner et il prend donc le titre d'Ecclésiaste, on pourrait traduire aussi le prédicateur. Des preuves internes confirment le point de vue traditionnel quant à la paternité littéraire de Salomon. Alors, il se désigne d'abord comme le fils de David, roi de Jérusalem. Ensuite, il possède une sagesse sans égale. Troisièmement, il s'est vautré dans tous les plaisirs, comme il le mentionne lui-même. Il possède une richesse considérable. Il a entrepris des travaux de construction colossaux. Il possède une belle collection de proverbes. Et les proverbes contenus dans ce livre ressemblent à ceux du livre des Proverbes. Certains spécialistes ne partagent pas l'opinion traditionnelle. Cependant, les preuves sont nettement en faveur de Salomon comme auteur du livre de l'Ecclésiaste. Il était mieux qualifié que quiconque pour écrire ce livre. Regardez maintenant la date de composition et la période historique et le cadre du livre. Donc, le livre reflète la deuxième partie de la vie de Salomon. Immédiatement après son relâchement spirituel, et sans doute très peu de temps avant sa mort, qui a eu lieu en 930 avant Jésus-Christ, qu'il se regarde comme un roi vieux et insensé. Au début de sa vie, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Mais à l'âge mûr, il se détourna de Dieu et mit sa sagesse exceptionnelle au service de sa quête d'une satisfaction et d'un bonheur sans Dieu. Il n'est pas étonnant alors que tout lui paraisse futile et vain. Comme il dit dans le verset 2 du chapitre 1, « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qu'il connaît ou a expérimenté dans le monde semble vide et absurde. » En fin de compte, il revient vers Dieu, comme on le lit dans le verset 15 du chapitre 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Si Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, la fin pourrait indiquer que peu avant sa mort, il retrouva le chemin d'une juste communion avec Dieu. Contrairement au message d'un bon nombre de prophètes, le livre de l'Ecclésiaste ne s'adresse pas à une nation particulière à un moment donné de son histoire. Avec toutes ses leçons et illustrations, Ce livre est la propriété de l'Église et du monde de tous les temps. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est le but principal du livre. L'Ecclésiaste est un livre remarquablement pertinent. Il donne l'impression d'avoir été écrit pour notre époque, car il fait preuve d'un scepticisme propre au temps moderne. Dans un monde rempli de gens désabusés, l'auteur parle comme quelqu'un qui a goûté à tout ce que le monde peut offrir, le meilleur des plaisirs, le pouvoir suprême, un prestige inégalé, la popularité mondiale. Malgré cela, il demeure insatisfait. Rien n'a véritablement de sens. Une vie privée de relations vivantes avec Dieu est futile et dénuée de but. Une vie au cours de laquelle l'homme se réjouit des bienfaits sans trouver sa joie dans le bienfaiteur est vide, dépourvue de signification et de raison d'être. Comme l'a écrit un auteur, « J'ai épuisé les eaux de la terre, mais j'ai encore soif. » Le nouveau dictionnaire biblique définit le but du livre comme suit. « Depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, ils se posent la question du sens de leur vie. » C'est pour eux que l'Ecclésiaste a retracé son itinéraire de recherche, souvent déroutant. Tantôt, il exhorte à la crainte de Dieu, et tantôt, il semble se demander s'il existe une justice suprême et éternelle. Ici, il prône les plaisirs comme seule raison de vivre. Là, il exalte la tristesse et le deuil. Il semble haïr la vie, et pourtant, il en déplore la brièveté. Un auteur qui s'appelle F. de Rougemont a dit « Un voile épais recouvre à nos yeux ce livre qui nous attire par ses parties lumineuses et qui nous repousse par ses obscurités. » Celui qui a écrit l'Ecclésiaste à travers les méandres de son itinéraire, qui a rebroussé chemin avec lui dans tous les cul-de-sac où il a amené son lecteur, voit comme seule issue du labyrinthe la foi en ce Dieu créateur, souverain, sagesse insondable. La foi repousse parfois le terrain du doute et du scepticisme à l'égard de tout ce qui nous est prôné comme valeur ici-bas. C'est le service que l'Ecclésiaste veut rendre à ceux qui n'acceptent pas d'emblée la sereine assurance des proverbes. Il les exhorte à pousser jusqu'au bout leur raisonnement et leur recherche pour constater effectivement que toutes ces avenues, tant vantées, ne mènent nulle part. Lorsque nous sommes arrivés au point où nous commençons à craindre qu'un haussement d'épaule soit le seul commentaire honnête à tout ce que le monde, soit voué à la mort, où rien n'a d'importance sous le soleil, alors nous sommes prêts à entendre la bonne nouvelle que tout a de l'importance sous le soleil, car Dieu amènera toute chose en jugement. Sur ce roc, nous pouvons être détruits, mais c'est du roc, pas du sable mouvant. Il y a là une possibilité de construire, comme M. Kidner a dit. Donc, c'est sur ce même roc que Jésus a construit. Il a résumé et prolonger la pensée d'Ecclésiaste en disant « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Mais aussi « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Troisième chose qu'on va regarder, le plan du livre de l'Ecclésiaste. Alors, chaque livre que vous allez trouver sur l'Ecclésiaste présente toujours un plan que l'auteur a développé. Ici, on en voit un qui est bon. Je vous laisse ces plans-là, c'est le but du plan et les buts des leçons que je vous donne là. C'est sûr que ça peut arriver que vous prenez ça, vous mettez ça dans votre cartable, puis que vous mettez ça, puis ça sort à mange poussière. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que les survols des livres, c'est pratique lorsqu'on commence la lecture d'un livre et qu'on veut mieux le comprendre. Et c'est là que, quand on prend le temps de lire le thème du livre et l'ensemble de tout ce qui est écrit à l'intérieur du livre, on apprend beaucoup de choses et on apprécie vraiment davantage le livre. Donc, c'est sûr, je ne ferai pas la lecture ce soir. Alors, le thème du livre, c'est « La vie sans Dieu est vaine ». Et là, il y a tout le développement, la vanité de toute chose dans la vie, dans les 6 premiers chapitres. Chapitre 7 à 12, c'est comment vivre avec cette vanité. Et on a la conclusion qui nous dit que bon, faut obéir à Dieu. Alors, les thèmes majeurs qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est bien entendu celui de la futilité de la vie sans Dieu. Un autre thème, c'est celui de l'inévitabilité de la mort. La richesse, le pouvoir, le prestige, le succès et les plaisirs frivoles sont sans valeur parce que la mort est inévitable. Troisième thème majeur du livre, la seule certitude, Dieu et l'ambition de lui plaire sont les seules choses dignes d'être poursuivies. C'est bizarre, hein? On lit ce livre-là, on sait que c'est vrai, mais pourtant, d'autres fois, ici, il nous dit qu'il n'y a rien qu'une chose qui est certaine et qui valent la peine, c'est Dieu et l'ambition de lui plaire. Pourtant, des fois, on cherche nos plaisirs bien ailleurs que là. Les personnages clés, bien, dans ce livre-là, le livre ne contient pas de personnages clés comme tels. Mais il y a quelques versets clés. Comme Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, c'est celui que bien souvent on connaît le plus. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. « Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous les cieux. » Alors, on sait qu'il y a un temps pour coude, un temps pour... Alors, c'est très intéressant, ce chapitre-là. Et on sait que c'est vrai. Un temps pour ramasser, un temps pour jeter, un temps pour... Alors, Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 et 2. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, « Je n'y prends point de plaisir. » Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. » On connaît tous quelqu'un qui sont rendus en fin de vie et qui nous montre la vérité de cela quand ça dit « Avant que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. » Alors, il y a beaucoup de personnes en fin de vie où ils ont juste hâte de mourir, la vie ne leur dit plus rien du tout. Alors, ça nous montre la vérité de ces versets-là. Alors aussi, tu as Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Septième idée qu'on va regarder, c'est les leçons pour le peuple de Dieu d'alors. L'expression « vivre sous le soleil » est sans signification si Dieu n'est pas présent dans cette même vie. La poursuite des choses telles que le succès, la richesse, le pouvoir et le plaisir sont vains parce que la mort est inévitable. Le but ultime de la vie et le sens de la vie ne se trouve que dans la poursuite de Dieu et dans tout ce que nous pouvons faire pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir, mieux l'adorer. Alors ça, c'est pour le peuple de Dieu d'alors. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui, l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 16 et 17 et verset 32. Dans le verset 16, il dit « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et dans le verset 32, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » La perspective de Paul sur la résurrection de Christ est similaire à celle de Salomon. Nous devons rechercher le Créateur et lui obéir. Sans Christ et la résurrection, toutes nos poursuites sont vaines, inutiles et sans signification. Mais à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nos œuvres, nos souffrances, nos joies et la vie en général sont remplies de sens et de but. On va regarder maintenant dans le huitième point la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Bien que ne contenant ni prophétie, ni théophanie, ni type de Christ, l'Ecclésiaste apporte une forte contribution aux saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La force de ce livre réside davantage dans l'absence de Christ que dans sa présence. Il témoigne que tout ce qui est bon et vertueux dans cette vie laisse facilement à désirer une fois éprouvé et essayé. Le livre de l'Ecclésiaste fournit des descriptions saisissantes de la vie dénuée de sens et de but pour celui qui est sans espérance et sans Dieu dans le monde. L'auteur a pris en compte tous les aspects et tous les efforts de l'expérience humaine. Il a goûté à tout et tout essayé, et le résultat a toujours été le même: déception, insatisfaction et désillusion. La voie est ainsi tracée pour celui qui révèle le secret de la vie, car seul Christ peut procurer une satisfaction pleine et définitive. Lui seul peut révéler le véritable sens et le but de notre existence. Le prophète Jérémie exprime le mécontentement de Dieu lorsque les gens, et le peuple d'Israël en particulier, le rejettent pour chercher ailleurs raison d'être et satisfaction. On lit dans Jérémie chapitre 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Pour que les pécheurs recherchent une source d'eau vive, il faut d'abord qu'ils se rendent compte qu'ils boivent de l'eau amère, c'est-à-dire qu'ils comprennent la futilité et la stupidité de toute vie sans Dieu. Comme le Seigneur Jésus le dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais donné toi-même demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Sauveur est venu pour donner un sens à la vie et pour le remplir de richesse et de vitalité. À ceux qui entendent sa voix, l'aiment et le suivent, il déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. » Bruce Wilkinson et Kenneth Boa oppose la vie sous le soleil, celle décrite dans l'Ecclésiaste, à celle du croyant, la vie sous le soleil de justice. Examinons attentivement le tableau des contrastes dans la page qui suit. Très intéressant parce qu'il fait deux colonnes qui nous présentent certains versets du livre avec le thème de la vie sous le soleil dans l'Ecclésiaste, avec comparé avec la vie sous le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Alors, dans le verset 3, on dit « Quel avantage y a-t-il à travailler? » Puis dans la vie sous le soleil de justice, ça dit « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 1, verset 6. Dans le verset 9, on a la vie sous le soleil dans l'Ecclésiaste, où il nous dit « Il n'y a rien de nouveau. » Pourtant, la vie sous le soleil de justice, qui est Christ, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 14 nous dit la vie sous le soleil dans l'Ecclésiaste, ça dit « Toutes les œuvres sont vaines », alors que la vie sous le soleil de justice de Christ dit « Soyez fermes, inébranlables, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si on compare aussi la vie sous le soleil dans l'Ecclésiaste, le fruit du travail est haï, alors que si on compare la vie sous le soleil de justice avec Christ, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans le verset 12 du chapitre 6, ça dit « L'homme est mortel », alors qu'on lit dans la vie, qu'on compare avec la vie sous le soleil de justice de Christ, « Quiconque croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. » Dans le verset 15 du chapitre 8, ça dit « Le plaisir est éphémère », alors que si on compare avec la vie sous le soleil de justice de Christ, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 17 du chapitre 8, l'homme ne peut découvrir l'œuvre de Dieu qu'il déclare. Alors si on compare avec la vie sous le soleil de justice de Christ, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Dans le verset 3 du chapitre 9, ça dit « Tous les hommes meurent ». Et si on compare avec la vie sous le soleil de justice de Christ, ça dit « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils ». Verset 11 du chapitre 9, on parle de force et de rapidité. Et alors que la vie sous le soleil de justice de Christ dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde » pour confondre les forces. Et le verset 2 du chapitre 12 dit « La vie prendra fin. » Alors que si on compare la vie sous le soleil de justice de Christ, ça dit « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Très intéressant, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens sur la rue là-dessus. Il dit pas « Afin que vous sachiez que vous aurez, que vous avez. » C'est pas autant, c'est pas futur, c'est « Que vous avez présentement. » Alors, le but de tout le livre est d'avertir les croyants de ne pas se laisser prendre par la poursuite des biens, même bons et légitimes, qui pourraient les éloigner de Dieu. Le devoir de l'homme est de servir Dieu et de trouver son bonheur en lui. Si nous nous privons de Dieu, alors ce monde ne nous offre rien qui présente un avantage ou une valeur durable. En revanche, si nous possédons Dieu, nous avons tout ce qui compte véritablement. Bien qu'étant pauvres, malades, méprisés et exploités dans le monde, Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Romains, chapitre 8, verset 31-32. Alors, les versets 15 à 17 de 1 Jean, chapitre 2. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'Ecclésiaste figure parmi les livres poétiques de l'Ancien Testament dans la classification adoptée par les Bibles protestantes. Cette section va de Job au Cantique des Cantiques. Les cinq livres qui la composent ont en commun une dimension spirituelle. En Job, nous avons la destruction de la vie égocentrique. Dans le livre des psaumes, la vie de résurrection et l'idée du culte. Dans les proverbes, les lois du ciel pour la terre sur terre. Autrement dit, c'est les lois célestes pour notre vie terrestre. Dans l'Ecclésiaste, c'est vraiment l'impuissance du monde à satisfaire l'âme humaine. Et dans le livre des Cantiques des Cantiques, c'est la satisfaction de l'âme dans le bien-aimé. Si on regarde, on voit qu'il y a un fil conducteur à l'intérieur des cinq livres, des choses qui se suivent et qui sont très... c'est pas un hasard qu'ils sont placés dans cet ordre-là. Le désenchantement du livre de l'Ecclésiaste ouvre la voie à l'enchantement de celui du Cantique des Cantiques. Que l'Éternel soit béni pour être un guide si sûr. Amen.
Amen.